السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
ان آیات کا ترجمہ ہے.
Traduction de ces versets est comme suit. Et les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Et qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Et qui disent, notre Seigneur, détourne de nous le châtiment de l'enfer, car ce châtiment est vraiment un tourment affreux. C'est vraiment mauvais comme lieu de repos et comme lieu de séjour. Et qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais modéré entre les deux, et qui n'invoque aucun autre Dieu avec Allah, et qui ne tue pas une âme que Dieu leur a interdit de tuer, sauf pour une juste cause, et ne commette ni adultère ni fornication, et celui qui fait cela paiera le prix de son péché. Et ceux qui, de plus, ne font pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent devant quelque chose de futile, passent leur chemin avec dignité et qui, lorsqu'on leur appelle les signes de leur Seigneur, ne deviennent ni sourds ni aveugles et qui disent, notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes et de nos enfants la joie de nos yeux et fait que chacun d'entre nous soit un leader pour les gens pieux. Et c'est à cela que sera accordé en récompense un rang élevé au paradis parce qu'ils étaient endurants et ils y seront reçus avec salutation et paix. Ils demeureront éternellement. Il est excellent comme lieu de repos et comme lieu de séjour. Le Ramadan est venu et est parti. Je reçois jusqu'à présent des lettres concernant le Ramadan ou écrits au cours du Ramadan et je suis en train de recevoir des fax écrits après le Ramadan. Les gens disent qu'Allah fasse que nous ayons fait des efforts sincères pour apporter en nous des changements purs pour la cause d'Allah. Et si nous avons pu apporter en nous quelques changements, qu'Allah fasse que ces changements soient permanents. Ces pensées et ces réalisations sont le but même du Ramadan. Dans le Saint-Coran, Allah a évoqué des signes ou des qualités que l'homme doit posséder pour être considéré comme un Ibad al-Rahman ou un serviteur d'Allah al-Rahman. Dans les versets que j'ai cités, Dieu a mentionné ces qualités. On y trouve mention des responsabilités personnelles. On y trouve mention aussi des responsabilités sociales. Et on trouve aussi mention du fait que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Si l'on arrive à acquérir ces qualités, l'on sera qualifié d'Ibad al-Rahman par Dieu. Et l'on aura aussi la bonne nouvelle du plaisir de Dieu et on aura aussi la bonne nouvelle de son paradis. Si après le Ramadan, nous continuons à suivre la voie indiquée par Dieu, nous allons profiter. profiter de son plaisir et nous allons aussi profiter de son paradis. Et si Allah est content de nous, ces changements purs feront partie intégrante de notre vie. La première qualité de ces Ibadur Rahman est qu'ils marchent sur terre avec humilité et modestie et dignité. Chacune de leurs décisions est équilibrée. Ils ne sont pas sévères ou colériques outre mesure, car dans certains cas, cela mène jusqu'à l'arrogance. Et ils ne sont pas plus réservés outre mesure. Ils ne sont pas réservés à tel point qu'ils sont dénués d'amour propre. Ces vertus qui ont été évoquées ici ne concernent pas que les individus, mais cela concerne aussi toute la jamaat. En tant que jamaat, vous devez générer en vous ces qualités. En tant que serviteur de Dieu, vous devez posséder ces qualités. Il y a aussi cette prophétie que les Ibadur Rahman auront la victoire de la part de Dieu. Et il est dit que quand vous aurez la victoire, ne soyez point arrogants, ne cherchez point à vous venger. Et n'oubliez point Dieu. Vous devez faire preuve d'humilité, de sincérité et vous devez vous acquitter de vos devoirs envers les autres. La deuxième qualité est « إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ». C'est une répétition ici du fait qu'individuellement, vous devez posséder ces qualités en tant que serviteur de Dieu. Vous devez posséder cette qualité, à savoir vous devez éviter les disputes et vous devez conseiller avec aménité toute personne qui dispute ou qui est colérique. Ensuite, vous devez faire preuve de modestie et vous devez vous comporter dignement. Vous avez établi la dignité de votre communauté dans la société. Mais lorsque vous allez régner en maître, vous devez vous en souvenir. Car Satan va tout le temps agir par différents moyens. Il va attiser votre furie. Il va attiser vos sentiments et ainsi les autres vont dire « Voilà, voyez comment ils sont cruels. » Donc, vous devez tout le temps maîtriser vos émotions. Vous devez suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il y a donc ici une prophétie que la situation sera meilleure à l'avenir pour la Jamaat. Mais ces temps-ci, dans certains pays, et au Pakistan en particulier, la situation est telle que l'on est en train de blesser les sentiments des Ahmadis. On pousse les Ahmadis pour qu'ils fassent justice eux-mêmes. Et ainsi, on va utiliser la loi afin de persécuter les Ahmadis. Il est dit que vous devez contrecarrer ces penchants sataniques en tant que serviteur d'Allah Ar-Rahman. Vous devez vous défendre en utilisant la loi. Vous n'avez pas le droit de répondre au mal par le mal, car cela va créer des difficultés pour les autres Ahmadis et pour la Jamaat. Dans ce contexte, je m'adresse aux Ahmadis et je leur demande d'essayer d'être de ces Ibad Rahman qui vont profiter des faveurs divines. Et comme je l'ai déclaré, ici, il s'y trouve aussi des prophéties. En tant que Jamaat, vous aurez la suprématie un jour. Et vous devez montrer au monde ce que c'est que la justice. Quand vous serez au pouvoir, vous devez montrer ce que c'est que de maîtriser ses émotions et montrer aux autres ce que c'est que de respecter les sentiments des autres. Aujourd'hui, au Pakistan, de différentes manières, les opposants de la communauté veulent provoquer les Ahmadis afin de les nuire autant que possible. Ils sont en train de faire ces complots ici et là. C'est pour cette raison que vous devez prendre maintes précautions et avoir tout le temps en tête cette situation. Vous devez faire preuve de patience et vous devez prier et implorer d'Allah afin de faire face à ces situations. En évoquant les qualités des serviteurs de Dieu Ar-Rahman, le Messie premier de l'Islam déclare que les vrais serviteurs du Dieu Ar-Rahman sont ceux qui marchent sur terre avec humilité. Et lorsque les ignorants leur parlent durement, ils les confrontent avec des paroles de paix et de grâce. Nous avons affaire avec des gens des plus ignares. C'est pour cette raison que nous devons maîtriser nos émotions et nous devons adopter la voie de la paix et de la grâce. Le Messie premier, l'Islam, déclare que vous devez être doux au lieu d'être dur et au lieu d'insulter, vous devez prier pour ces personnes et vous devez adopter les qualités d'Allah Ar-Rahman. Car le Rahman est celui qui accorde des faveurs telles le soleil, la lune, la terre, l'air à tout le monde, à ceux qui sont beaux et mauvais. Dans ces versets, Dieu a expliqué clairement que le terme Rahman s'applique à Dieu, à savoir que sa grâce est générale et concerne tout le monde, qu'on soit juste ou injuste. Aujourd'hui et à l'avenir, nous allons devoir traiter avec aminité toute personne, amie ou ennemie, bonne ou mauvaise. Nous devons être à l'image d'Allah Ar-Rahman et nous devons traiter les autres avec grâce et pardonner aux autres. Et nous devons aussi prier pour soi-même et implorer l'aide de Dieu, et on doit aussi prier pour que Dieu guide les autres, afin que nous soyons tout le temps parmi les Ibad Rahman. La troisième qualité des Ibad Rahman est Yabituna li Rabbihim sujadan wa qiyama. Ils passent leur nuit en prosternation et debout devant leur Seigneur. Quelques jours auparavant, pour quelques jours, grand nombre d'entre nous ont suivi ce commandement, mais Allah n'a point déclaré que vous devez agir ainsi que pendant quelques jours. Les Ibad Rahman n'agissent point ainsi pendant quelques jours. Au contraire, les Ibad Rahman se prosternent tout le temps et se tiennent tout le temps debout devant leur Seigneur. Donc, il y a de grandes responsabilités qui reposent sur les épaules des Ahmadis, surtout en raison de la situation qui règne aujourd'hui. Dans le monde musulman, les Ahmadis font face à des difficultés. Non seulement que les Ahmadis doivent accomplir leur sola obligatoire, mais doivent embellir leur nuit par des prières surérogatoires et doivent être réguliers de la prière de Tahajjud. Car se lever la nuit signifie immoler son ego. Voilà ce que déclare Dieu. Si en toute sincérité, nous nous prosternons devant Dieu la nuit, cela va, Inch'Allah, enlever les difficultés de la Jamaat. Nous devons avoir en tête que l'on ne doit pas se lever la nuit pour des buts personnels, mais l'on doit prier pour avoir le plaisir de Dieu et prier pour le progrès de la Jamaat. Si dans le monde, tous les Ahmadis désirent le plaisir de Dieu et se lèvent pendant la nuit et accomplissent deux rakats de prière pour le progrès de la Jamaat, nous allons constater que Dieu va nous aider davantage. Et nous allons voir aussi comment Allah va anéantir l'opposition contre la Jamaat. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah a déclaré que l'homme se rapproche de Dieu par l'entremise des prières surérogatoires à tel point que Dieu devient ses oreilles par lesquelles il entend, Dieu devient les yeux par lesquels il voit et Dieu devient les mains par lesquelles il attrape et Dieu devient les pieds par lesquels il marche. Dieu se rapproche ainsi de celui qui accomplit sa prière de Tahajjud et ses prières surérogatoires. Nous avons donc la responsabilité d'accomplir ces prières surérogatoires pour se rapprocher de Dieu. Après le Ramadan, l'on ne doit point veiller la nuit en discutant sur des choses futiles pour ne plus pouvoir se réveiller le matin pour la prière. Nous devons passer par ces nuits qui vont nous rapprocher de Dieu. Au cours du Ramadan, nous avons appris les principes pour être des ébats de l'Ahman. Nous devons agir sur la même ligne et nous devons embellir nos nuits grâce à ces actes d'adoration. C'est ainsi que nous pourrons apporter rapidement une révolution, Inch'Allah. Les compagnons du saint prophète Mohammed, lui, se sont acquittés de leurs devoirs dans ce domaine et le monde a vu la révolution qu'ils ont apportée. Pendant la journée, par contrainte, ils devaient se battre, mais ils veillaient la nuit en prière et ils ne se reposaient point la nuit. Tant que les musulmans ont veillé la nuit en prière, ils ont fait de grands progrès. Les Ahmadis doivent en faire de même aujourd'hui et ils doivent prier pour le progrès de l'Ahmadiyya et de l'Islam. Le Messie premier l'Islam a déclaré que le monde connaît l'état de l'Arabie et du monde lorsque le saint prophète Mohammed est apparu. Ils étaient comme des bêtes sauvages et ils ne savaient que manger et boire et ils ne s'acquittaient pas de leurs devoirs envers Dieu et envers les hommes. À ce propos, Allah déclare « Ya'kuluna kama ta'kuluna al-an'am » c'est-à-dire, leur tâche était de manger et de boire comme des animaux. Et ensuite, grâce à l'enseignement pur du saint prophète Mohammed bin Sallallahu lui, ils se sont transformés. Et ensuite, yubituna li rabbihim sujadan wa qiyama, c'est appliqué à eux. C'est-à-dire que le soir, ils se prosternaient, se mettaient debout devant leur Seigneur. Le saint prophète Mohammed a apporté une révolution extraordinaire et unique. Il a établi les devoirs dus envers Allah et envers ses créatures. Il a transformé ce peuple moribond en un peuple vivant. Il n'y a que deux types de vertus. Il y a les vertus intellectuelles et pratiques. La vertu pratique signifie yubituna li rabbihim sujudan wa qiyama. Et la vertu intellectuelle est de publier un nombre incomparable de littérature. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: sans spiritualité, aucune religion ne peut exister, perdurer. Le Saint-Coran décrit la situation d'avant la venue du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque ces mêmes personnes ont embrassé l'islam, Dieu déclare à propos de ces personnes que yubituna li rabbihim sijadan wa qiyama. Sans l'antidote du ciel, le cœur ne peut point partir sur le droit chemin. Sans une personne possédant des pouvoirs sanctifiants et une bonne nature, la religion ne peut progresser. Et si cette religion progresse, ce progrès ne sera pas soutenu. Nous avons ce désir que la Jamaat progresse rapidement et nous désirons que les difficultés de la Jamaat cessent. Mais comme l'a déclaré le Messie premier, nous avons besoin de cet antidote du ciel. Et cet antidote, nous allons recevoir lorsque nous allons suivre les commandements de Dieu. Qu'Allah nous en donne la possibilité. Ensuite, une autre qualité des Ibadur Rahman est qu'ils prient pour qu'Allah les éloigne du feu de l'enfer. L'enfer signifie les deux enfers. L'enfer de l'au-delà, l'enfer qui sera la conséquence des péchés, et il y a aussi cet enfer d'ici-bas, cet enfer qui est la conséquence des mauvaises actions d'ici-bas. La tâche d'un Ibadur Rahman est d'implorer tout le temps le pardon de Dieu et d'essayer de profiter de la protection de Dieu. Il doit prier pour qu'Allah le protège de l'ignominie d'ici-bas et de l'au-delà. Qu'Allah le protège de tout malheur d'ici-bas et qu'il ne soit point l'esclave de l'éclat de ce monde, car cela éloigne de Dieu et cela nous mènera dans l'enfer, dans l'au-delà. Et on doit prier aussi pour que nous n'ayons pas de soucis à propos de nos enfants et que nous ne soyons point consumés par le feu de l'anxiété à propos de nos enfants. La cinquième qualité des Ibadur Rahman est Lam Yusrifu, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des dépenses futiles et inutiles. Ils ne dépensent pas par ostentation pour leurs choses personnelles et ils ne dépensent pas non plus les biens de la Jamaat sans réfléchir. Un exemple concernant les dépenses personnelles futiles concerne le mariage. Et c'est là quelque chose qui vient de plus en plus commun. Les gens ne font que copier les autres. Ici, au Pakistan, l'on prépare différents mets et il y a plusieurs banquets qu'on fait pour le mariage. Il y a un banquet avant le mariage, il y a aussi le walima, le repas de noces, alors qu'on peut préparer des repas très simples. Et ensuite, avant le mariage, il y a le mehendi, qui est un autre banquet avant le mariage, et pour cela, les gens font des dépenses faramineuses. C'est là quelque chose organisé par les parents de la fille, et pour cela, ils font de grandes dépenses. Il y a des cartes d'invitation qu'on publie. Si vous voulez faire un mehendi quelconque, les amis de la mariée peuvent se réunir et faire une petite fête. Mais cela est en train de prendre de l'ampleur de jour en jour et l'on ne fait que copier les autres. Maintenant, une autre tradition est que les familles du jeune marié sont en train d'en faire de même. Et j'ai vu que cette tradition ou que cette innovation est maintenant une pratique courante, même par des gens qui sont considérés comme religieux. Et quant à ceux qui ne font pas tous ces banquets pour quelque raison, ou en raison de leur bonne qualité, l'on peut dire, ces personnes sont critiquées par les autres. Ils disent que ces gens sont avares. Ceux qui partent au Pakistan font des dépenses faramineuses sur des bijoux, sur les vêtements et sur ces banquets. Et ils essayent de se surpasser les uns les autres. Ce sont là des dépenses futiles. Et si l'on fait des économies sur ces dépenses, l'on pourra aider pour le mariage des pauvres, on pourra aider les pauvres et les orphelins. Et on pourra faire d'autres dépenses pour de bonnes causes. Mais l'on doit avoir cette habitude de faire des économies. Voilà les actions qui vont transformer quelqu'un en un Ibad Rahman. La sixième qualité est l'âme yaqturu, c'est-à-dire que les Ibad Rahman ne sont pas avares non plus. Les avares ne dépensent pas sur des choses qui leur sont permissibles et leur avarice atteint son comble. Et ils font tout cela afin d'amasser de l'argent. Certains sont avares à tel point qu'ils ne font pas des dépenses sur des choses de première nécessité. Ils n'aident pas les pauvres, ils n'aident pas leurs parents et ils n'ont pas un sens de sacrifice. Ceux qui ont les capacités et qui ne dépensent pas leurs biens ne sont pas des Ibad Rahman. Allah n'aime pas ceux qui font des dépenses excessives et il déclare que ces gens ne font pas partie des Ibad Rahman, mais il abhorre aussi les avares. Tout d'abord, ils ne font pas des dépenses nécessaires et ils ne pensent qu'à amasser leurs biens et ainsi ils arrêtent le progrès de la société. Allah déclare que les Ibad Rahman ne font pas des dépenses futiles et inutiles par ostentation et ils ne sont pas non plus avares à tel point qu'ils ne font pas des dépenses sur leurs besoins de première nécessité. Les Ibad Rahman adoptent tout le temps la voie du milieu. Un Ibad Rahman dépense ou ne dépense pas uniquement pour la cause d'Allah. La septième qualité des Ibad Rahman est qu'ils ne s'approchent pas du shirk, car le shirk est le plus grand des péchés. Allah déclare qu'il peut pardonner tout péché sauf le polythéisme. Ce shirk qui est associé aux Ibad Rahman n'est pas ce polythéisme apparent, mais cela signifie ici un shirk secret. Leurs actes d'adoration et leurs autres actions sont en accord au commandement de Dieu. Et ils regardent de près chacune de leurs actions afin qu'aucune de ces actions ne se transforme en un acte de polythéisme secret. Ils prennent de grandes précautions à cet effet. Leur emploi n'est point un obstacle dans leurs actes d'adoration. C'est là quelque chose que j'ai évoqué la semaine dernière. C'est là une autre forme de shirk. Ensuite, la huitième qualité des Ibad Rahman est qu'ils ne tuent point injustement. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est certes battu ses compagnons et ses califes, et bien guidés ont dû se battre après, mais ils ont marché sur les voies de la taqwa et ils se sont battus en raison des excès de l'ennemi et afin d'arrêter la main de l'ennemi. Et l'ordre reçu du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de ses califes est que l'on ne doit pas tuer les femmes, les enfants, les prêtres et les moines qui ne participent point dans la guerre. Mais si l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, par exemple au cours de la Deuxième Guerre mondiale, on va voir qu'on a tué des centaines de milliers d'innocents japonais. Aujourd'hui, en prétextant établir la paix, on lance des attaques du ciel et on tue ainsi des innocents. Voilà l'état de ces gens qui s'attaquent à l'islam. Mais ceux qui se considèrent comme des Ibadur Rahman sont en train, quant à eux, de lancer des attaques suicides et tuent ainsi des innocents. C'est là une toute autre histoire qui est tout aussi abominable. Et ainsi, on est en train de tuer au nom de l'islam et au nom de la religion. Allah a décrété que pareilles personnes ne sont pas des Ibadur Rahman. Ensuite, la neuvième qualité des Ibadur Rahman est qu'ils ne commettent pas l'adultère. Ici, cela concerne l'adultère de la pratique et cela concerne aussi tirer plaisir d'émissions malsaines et impures. Ces temps-ci, les gens regardent tout cela sur l'Internet et à la télé. Tout cela entre dans la catégorie de l'adultère commis par l'esprit et par les yeux. Et les Ahmadis doivent s'en prémunir. Ensuite, la dixième qualité des Ibadur Rahman est qu'ils ne mentent pas et qu'ils ne donnent point de faux témoignages. Le mensonge est la cause du déclin et de la destruction des peuples. Les serviteurs d'Allah et les djamats de Dieu doivent progresser. Allah a promis qu'ils doivent progresser et qu'ils doivent aller de l'avant. Si ces gens commencent à mentir, ils ne seront plus les choisis de Dieu. Ils ne seront plus de ceux à qui Dieu accorde ses faveurs ou à qui Dieu promet d'accorder ses faveurs. Les Ahmadis doivent être tout le temps vrais dans leurs témoignages et dans leurs affaires. Ils doivent dire la vérité à 100%. Par exemple, concernant les mariages, ils doivent dire toute la vérité. Au moment du nikah, ils disent qu'ils vont dire toute la vérité. Une vérité qui est sans aucune ambiguïté. Ils vont prononcer des paroles qui ne prêtent point à interprétation, des paroles claires et nettes. Voilà ce qu'on dit avant le mariage. Mais après le mariage, les jeunes hommes mentent aux jeunes femmes et les jeunes femmes mentent aux jeunes hommes. Et les belles familles de deux côtés mentent. Et ainsi, l'on commence à s'éloigner des uns et des autres. Et ainsi, petit à petit, ces cellules familiales se brisent. En raison de leur égocentrisme, ces cellules familiales se brisent. Et s'ils ont des enfants, ces enfants vont à la dérive. J'ai déjà expliqué cela à plusieurs reprises. Pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les autres, l'on doit se détourner de tout type de mensonge. On doit abhorrer le mensonge en tant que croyant. La onzième qualité est Marru billahwi marru kiram, c'est-à-dire les Ibadur Rahman ne sont pas tirés par les futilités de ce bas monde. Parmi les futilités de ce bas monde, il y a l'Internet, il y a ces émissions qui sont inappropriées. Il y a ces chaînes de télé qui sont inappropriées. Il y a aussi le fait que les garçons et les jeunes filles marchent ensemble à l'école ou font des groupes pour partir dans des boîtes de nuit où ils font la fête ici et là. Il y a aussi le fait qu'ils font des plans pour partir dans des concerts. Donc tout cela est futilité pour les croyants. D'une part, nous disons que nous avons prêté allégeance au Messie premier, les salam, et nous disons que nous allons prendre l'engagement d'être des Ibadur Rahman. Mais en dépit de ces faits, l'on commet des choses futiles, des choses qui détruisent complètement la moralité. Un vrai Ahmadi doit éviter ces choses. Parmi les choses futiles, il y a les disputes. J'ai déjà évoqué cela auparavant. Toute chose, toute action qui détruit la société est considérée comme futile et vanité. Le Messie premier, cela déclare, « Wa'idha marru billahwi marru kirama » Lorsqu'ils entendent des paroles futiles de la part de quelqu'un, ils s'en détournent avec dignité et ne se disputent pas pour des choses futiles et pour des broutilles. Tant qu'ils ne subissent pas de grandes pertes, ils ne font pas bruit et ils essayent de se réconcilier avec les autres. Voilà ce que signifie la réconciliation. Cela signifie ne pas se disputer pour des choses futiles et de pardonner aux autres. Alors, signifie qu'une personne ait commis une action contre vous ou qu'elle ait l'intention d'accomplir cette action contre vous, mais que cette action ne vous cause aucun tort. Dans ce cas, vous devez vous réconcilier avec l'autre et vous devez fermer les yeux sur pareille action et vous devez vous comporter dignement. La deuxième qualité des Ibadur Rahman est lorsqu'on leur récite les signes de Dieu. Ils ne sont ni sourds ni aveugles, mais écoutent cela avec attention. Ils s'efforcent de suivre tous les conseils prodigués par le Saint-Coran. Et ils essayent de progresser dans leur spiritualité. Pour être des Ibadur Rahman, on doit s'efforcer de suivre tous ces conseils. On ne doit pas regarder qui est en train de prononcer ces paroles. On doit tout simplement regarder et voir que ces paroles sont attribuées à Allah et à son prophète et on doit agir selon ces paroles. Si on ne met pas ces paroles en pratique, l'on va trébucher et l'on va aussi sortir de la catégorie des Ibadur Rahman et petit à petit on va s'éloigner de la Jamaat. La 13e qualité des Ibadur Rahman est qu'ils prient ainsi pour leurs femmes et leurs enfants. Ils prient qu'Allah leur accorde de leurs femmes et de leurs enfants la joie de leurs yeux. C'est là une prescription très importante pour le salut des générations futures. D'une part, l'on fait des plans et des efforts pour le progrès matériel et religieux de ses enfants. D'autre part, l'on doit aussi prier, car en fait, tout vient de la part d'Allah. C'est lui qui crée de bons résultats. Si l'on pense que l'on peut faire l'éducation de ses enfants en raison de ses aptitudes personnelles, cela est une erreur. Les gens de ce bas monde peuvent voir le progrès de leurs enfants, mais leur progrès est en raison de la rahmania de Dieu. Ces progrès sont d'ordre matériel uniquement. Mais ces gens-là sont point des serviteurs d'Allah Ar-Rahman, car Allah ne leur a pas conféré le titre des imams, des mutaqis. Et ainsi, ils n'ont pas tourné leur attention à ce propos. Mais ceux qui prient pour que leurs enfants progressent dans la taqwa vont pas uniquement prier pour leur progrès matériel, mais vont prier pour leur progrès moral et religieux et vont ensuite progresser dans la taqwa. Et ainsi, ces personnes vont profiter des faveurs de Dieu. Aujourd'hui, partout dans le monde, les parents sont soucieux quant à l'éducation de leurs enfants et quant à leur progrès matériel, mais l'on ne se soucie guère de leur état spirituel. Ici en Occident, au nom de la liberté, on a rendu les enfants si effrontés que ces enfants ne sont même pas prêts à écouter les conseils de leurs parents. Et maintenant, dans les émissions à la télé, ils disent que cette liberté accordée aux enfants est de trop. Donc, les parents ne peuvent pas être des imams des enfants, ce sont les enfants qui se soulèvent contre les parents. Et dans nombre de cas, les enfants ont commencé à battre leurs parents. Ces enfants ne supportent pas qu'on les arrête. Ces enfants ne supportent pas qu'on leur prodigue des conseils. Comme je l'ai déclaré, on commence à dire que si on doit protéger les générations futures, l'on va devoir fixer les limites. Jusqu'à quel point les parents doivent soutenir leurs enfants et quand doivent-ils prendre des mesures? Car si les parents prennent des mesures contre leurs enfants, les services de protection des enfants prennent ces enfants sous leur tutelle ou ces enfants menacent leurs parents en disant que nous allons partir voir les services sociaux. Et ainsi, l'insolence de ces enfants dépasse toute limite. Voilà ce qui se passe dans certaines familles. La situation est des plus déplorables. Une des grandes raisons de cette situation est que ces gens ne prient pas. Il est dit ici que vous devez implorer Dieu pour que vous puissiez faire une bonne éducation de votre enfant et vous devez aussi être un modèle pour vos enfants. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: il y a un autre point, à savoir que les gens ont de grands désirs d'enfants et ils ont enfin de compte des enfants. Mais on ne voit pas qu'ils font des efforts pour que ces enfants soient vertueux et soient obéissants envers Dieu. Ils ne prient pas pour leurs enfants et ne prennent pas en considération non plus les étapes de l'éducation morale et spirituelle. Et ils ne se soucient guère de l'éducation qu'ils doivent accorder à leur enfant à un âge donné. Le Messie premier déclare que, quant à moi, dans chacune de mes prières, je prie pour mes amis, pour mes enfants et pour ma femme. Il y a nombre de parents qui enseignent de mauvaises habitudes à leurs enfants. Lorsque ces enfants prennent de mauvaises habitudes, ils ne les réprimandent pas. Conséquemment, de plus en plus, ces enfants sont insolents. On a des désirs d'enfants, mais ces gens n'ont pas des désirs pour que ces enfants soient des serviteurs de la religion, mais ils veulent avoir des héritiers. Et lorsqu'ils ont des enfants, et ils ne se soucient pas de leur tarbiya, et ils n'essayent pas de les réformer. On n'enseigne pas ces choses essentielles aux enfants. Quelqu'un m'a dit que dans une école, un musulman s'est adressé à un enfant Ahmadi en disant que vous, les Ahmadis, vous adorez Satan et que vous n'acceptez pas Dieu. Cet enfant, qui était grand, ne savait pas quelle réponse donner et était silencieux. Son silence a dû faire comprendre à l'autre que les Ahmadis n'acceptent pas l'existence de Dieu. Donc les parents n'enseignent pas des choses fondamentales à leurs enfants. Il est dit, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam déclare, que les parents ne réforment pas la moralité de leur enfant. Si on arrive à réformer ces enfants ne seront plus insolents. J'ai déjà dit à ce propos que l'on doit s'occuper des vêtements des jeunes filles. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, on doit leur faire comprendre la modestie vestimentaire et en grandissant, elles vont comprendre son importance. Arrivé à l'âge de 13 ou de 14 ans, vous ne pouvez pas les empêcher de porter des jeans et des chemisettes pour porter de longs manteaux. Donc c'est pour cette raison que déclare le Messie premier salam que vous devez réformer ces enfants. Il déclare aussi que celui qui ne comprend pas les relations filiales ne connaît pas de foi. S'il y a des manquements à ce propos, ces enfants ne vont pas accomplir d'autres actes de vertu. Allah a évoqué ce désir d'enfant dans le Saint-Coran en disant: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes et de nos enfants la joie de nos yeux, et cela va se faire lorsqu'on va éviter une vie de péché et d'iniquité, et lorsqu'on va vivre comme un vrai ibadur Rahman, et lorsqu'on va donner prééminence à Dieu sur toute autre chose. Et il est dit: waj'alna lil muttaqina. C'est-à-dire que si les enfants sont pieux, que nous soyons leurs imams. On est en train de prier pour être muttaqi soi-même. Pour la tarbiya des enfants, pour que ces enfants soient des muttaqi et pour qu'ils soient des ibadur Rahman, comme l'a déclaré le Messie premier salam, vous devez prier vous-même pour que vous soyez un muttaqi. Si vous faites des efforts en ce sens, vous allez posséder ces qualités qui ont été évoquées à propos des ibadur Rahman. Et c'est ainsi qu'on va se rapprocher de Dieu. Le Messie premier salam déclare que le plus respectable des hommes est protégé par Dieu. Ces gens ont des liens ferme avec Dieu et sont sincères envers Dieu. Ce sont des gens qui se purifient l'intérieur, et ces gens traitent les autres avec aménité et bonté et sont obéissants envers Dieu. Voilà donc les qualités que doivent posséder les vrais Ahmadis. Qu'Allah fasse que nous soyons tout le temps purs de l'intérieur, que nous puissions établir une relation ferme avec Dieu, et que nous puissions posséder ces qualités des Ibadur Rahman, et que nous soyons tout le temps les héritiers de son paradis éternel. Amin.